I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
都忙
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, Clément Salazar, mais aussi Tiffaine de Roquigny et Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Troisième volet de notre série consacrée autour de la crise du politique, de la perte de crédit, de la parole politique et des partis pour réenchanter le politique. C'est le titre de notre série cette semaine. On voit des initiatives naître un peu partout dans le monde. Des mouvements sociaux en Grèce par exemple, mais aussi en Espagne avec les indignés de la Puerta del Sol ou encore avec Nuit Debout ici en France qui semble s'en inspirer. Alors parfois ces mouvements donnent naissance à des partis politiques comme Podemos dans la péninsule ibérique. Parfois pas. Pensons peut-être aussi là au mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, même si Bernie Sanders, le candidat à la primaire démocrate toujours en lice face à Hillary Clinton, semble porter les aspirations des manifestants d'alors. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retrouve au cœur de ces mouvements, eh bien ce sont les idées.
Il faut investir partout, transport, énergie, infrastructure. Les crédits pour les écoles et l'accueil des SDF ont été diminués. Il faut remettre en place un service public. Après tout, les riches n'ont pas besoin d'autant d'argent. Depuis longtemps, le peuple américain dit qu'il faut taxer les riches, qu'il faut mettre fin aux guerres et renforcer la protection sociale. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Donc le problème ne vient pas du peuple. Le problème, c'est qu'il y a une rupture entre Washington et le peuple.
Notre objectif, en réfléchissant tous ensemble, est de construire. Nous avons des opinions différentes, mais nous mettons notre énergie en commun pour bâtir quelque chose de nouveau.
Les banquiers ne vont jamais te permettre de casser l'immeuble, comme tu dis. Il faut que nous, nous fassions changer ce système, petit à petit, de l'intérieur.
Le projet de refonder, de réécrire la Constitution me semble un objectif politique tout à fait pertinent. Le salaire à vie, la discussion de nouveaux droits, étendre la sphère de la gratuité au logement par exemple, ou à d'autres choses, ou au transport, ou à Internet également, parce que c'est un droit politique.
Indigné, Occupy, Global Debout, raviver le combat d'idées, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Un peu partout sur les places du monde, on se réapproprie l'espace public pour reprendre la parole. Une parole qui aurait été confisquée par les gouvernements et les États. Dans une époque où on nous explique, notamment en France, que le clivage gauche-droite n'a plus de sens, qu'il n'y a plus de d'alternatives crédibles à gauche, à la social-démocratie par le gouvernement, portée par le gouvernement, il apparaît un besoin de revenir aux idées, de réaffirmer les positions, les projets qui structurent le paysage politique. Plus que jamais, on ressent ce besoin de débat et de confrontation idéologique. Pour la philosophe Chantal Mouffe, il est essentiel de revenir à la bataille des idées, à la confrontation idéologique. Pour elle, il est urgent de sortir de cette quête de la réconciliation et de cette illusion du consensus, pour reprendre le titre de son livre paru il y a quelques mois chez Albin Michel. Un consensus qui serait tout autant une erreur politique qu'un danger pour la démocratie. Alors comment sortir de l'approche consensualiste? Ces mouvements sociaux dits de place, le peuvent-ils? Qu'apportent-ils concrètement au débat d'idées? En quoi permettent-ils de repenser les clivages classiques? D'ailleurs, ces clivages, notamment le clivage gauche-droite, sont-ils réellement obsolètes, comme on le dit parfois? Et qu'est-ce que ce besoin de retour aux idées nous dit de la crise politique que nous traversons? Ces expériences permettront-elles aussi de faire naître un populisme de gauche, qu'appelle de ses voeux Chantal Mouffe? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par populisme de gauche? Vers où faut-il tourner les yeux pour en voir une manifestation? Eh bien, faudra justement nous intéresser à l'Espagne. On le fera ce matin pour comprendre ce que les Indignados, et plus tard le parti Podemos de Pablo Iglesias, ont modifié dans les discours et le système politique espagnol. Et puis on s'intéressera également à la Grèce, où finalement tout avait commencé, à la fois la démocratie athénienne bien sûr, mais aussi plus récemment sur la place Syntagma d'Athènes, où dès 2008, la contestation avait surgi sur les cendres de la crise économique et financière, plongeant le pays dans une situation sans précédent, avec une dette colossale dont on discute encore en ce moment la restructuration, et pour laquelle le peuple grec risque de payer et de souffrir encore pour quelques années. Pourtant Syriza n'avait-il pas promis de sortir le pays de la crise et de mettre fin à l'austérité? Renoncement idéologique ou réalisme politique, nous verrons ça tout à l'heure avec notre invité Lamprini Rory, qu'on aura par téléphone. Pour évoquer cette question, raviver le combat d'idées, ben justement, on a invité ce matin Chantal Mouffe. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Chantal Mouffe. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université Westminster au Royaume-Uni, et puis donc vous êtes l'auteur de ce livre, L'illusion du consensus. Vous dites que c'est un danger du point de vue politique. Pour vous, le conflit est constitutif de la politique et vous êtes l'une des grandes figures inspiratrices du mouvement des indignés en Espagne, dont on parlera bien sûr. Mais d'abord, peut-être Chantal Mouffe, un mot sur l'actualité autrichienne notamment. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle autrichienne, on a été un peu étonnés, pour pas dire quasiment sidéré, de la qualification du candidat du FPE Norbert Hofert face à celui des Verts. À l'issue du second tour, on a été une nouvelle fois frappé de voir à quel point les deux candidats étaient sur des scores très très proches et combien finalement on avait là une Autriche coupée en deux. Beaucoup de responsables politiques ont alors crié un ouf de soulagement de voir Alexander Van der Bellen l'emporter. Il faut dire que le symbole de ce retour possible de l'extrême droite aurait été évidemment très dur pour un pays où depuis la Seconde Guerre mondiale, les deux principaux au parti, les conservateurs et les libéraux trustaient à peu près 70% des voix à chaque élection. Que vous inspire ce scrutin, les réactions qu'il a suscité et qu'est-ce qui vous semble révéler de ce laboratoire autrichien que vous évoquiez déjà dans ce livre, alors qui vient de paraître, mais que vous aviez écrit il y a une dizaine d'années maintenant?
Oui, mais justement, en fait, je crois que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la corroboration de thèse que je défendais déjà il y a 10 ans, parce qu'en fait, dans l'illusion du consensus, je m'étais déjà intéressée particulièrement au cas de l'Autriche. À ce moment-là, c'était Georg Haider qui était donc le président du parti du FPE. C'est lui qui avait d'ailleurs transformé ce parti. Et la thèse que je défendais à l'époque, c'était que le succès du FPE, parce que bon, il faut quand même se souvenir qu'en 2000, ils sont arrivé avec 27% des voix et ça a conduit donc à une coalition avec les gens du parti ÖVP, donc les conservateurs. Et bon, il y avait déjà eu à l'époque beaucoup de réactions ici. En France, je me souviens particulièrement Jacques Chirac. J'essayais de montrer que justement, il fallait pas voir ça comme, en général, on l'entendait, un retour d'une fascisme. Il fallait comprendre le succès du FPE dans le cadre de ce qui était déjà, en fait, ce que j'appelle dans ce livre la post-politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le parti du centre-droit et du centre-gauche. D'ailleurs, en Autriche, c'était particulièrement clair parce qu'ils avaient le ÖVP et le SPE, donc sociaux-démocrates et conservateurs, faisaient depuis très longtemps une grande coalition. Ils avaient le Social Partnership, c'est-à-dire ils faisaient vraiment ensemble. Et ça avait créé une situation dans laquelle il y avait tout de même pas mal de gens qui se sentaient exclus. Par exemple, pour avoir un poste à n'importe où dans des choses publiques, il fallait ou bien être membre du FPE ou du ÖVP. Mmh. Si on n'était pas membre d'eux, on était automatiquement exclu. Donc, il y avait une grande quantité de demandes que je considérais qu'étaient des demandes démocratiques. Et comme il n'y a pas la possibilité de s'exprimer à travers justement ce consensus au centre, ben, ça avait créé les conditions pour le succès de Georg Haider.
On avait un terrain rêvé pour Georg Haider qui a pu se placer comme seul parti d'opposition
oui,
en réalité.
Oui.
À l'époque, il y a 10 ans, Chantal Mouffe, vous disiez que l'exercice du pouvoir avait affaibli le FPE et que d'une certaine manière, la confrontation avec les responsabilités constituait un obstacle à son essor. Or aujourd'hui, force est de constater que cet obstacle est sur le point de sauter. Il y a d'ailleurs des élus du FPE dans plusieurs parlements régionaux, ça ne semble pas véritablement l'affaiblir. On se dit même que les prochaines élections législatives pourraient voir la victoire du FPE et voir son leader, Heinz Christian Strache, devenir le prochain chef du gouvernement.
Oui, bon, on va voir. Ça, c'est pas du tout certain. Mais bon, la question, ça dépend. Ils sont au pouvoir, mais où? Parce qu'en fait, pendant toute l'époque où Georg Haider a été au pouvoir, enfin en coalition avec le PS, toutes les élections qui ont eu lieu, ils ont perdu des voix. Mmh. Hein, donc ils ont été, il y a eu vraiment. Et c'est uniquement après, lorsque il y a eu de nouveau une grande coalition en Autriche, que le FPE a commencé à augmenter de voix. Donc je crois que moi je suis absolument convaincue. Ça c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'Allemagne que la coalition au centre, lorsqu'il n'y a pas de différence entre le centre droit et le centre gauche, ça nécessairement conduit à une crise de représentation qui constitue un terrain favorable pour le développement des parti populiste. Mais je crois que dans le cas de Gourgaïov, par exemple, ce qui était très clair, c'est que il avait fait toute sa campagne avant les élections, essayant de mettre ensemble toute une série de demandes qui étaient complètement contradictoires. Parce que, par exemple, il y avait les demandes de la classe ouvrière qui était qui se sentait plus représentée par les sociaux-démocrates, mais il y avait aussi toute une série de demandes de ce qu'on appelait les youpies, des jeunes groupes, enfin de jeunes entrepreneurs qui désiraient justement avoir beaucoup une politique beaucoup plus libérale. Alors évidemment, pendant qu'il était en campagne, pas encore arrivé au gouvernement, il pouvait jouer et essayer de prétendre qu'il allait satisfaire tout le monde. Une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est plus si facile parce que là, il faut qu'ils prennent et c'est ça en fait qui avait conduit à la perte de voix du FPE. Alors ce qui va évidemment les choses se sont transformées, la situation 20 ans après, 10 ans après, pardon, n'est plus exactement la même en Autriche. Mais alors, il faut aussi dire que on parle de normalisation. Le FPE aujourd'hui a tout de même pris un tournant. C'est pour ça parler de parti fasciste. C'est un parti de populiste de droite, mais qui, d'une certaine façon, comme ce qui s'est passé ici en France avec Marine Le Pen, a réussi à reprendre certaines des revendications qui sont des revendications de gauche. Par exemple, la défense de l'État, la défense. Donc, en parlant d'ailleurs une fois avec des membres du Parti social-démocrate, le SPI, la gauche du Parti social-démocrate, on discutait justement de la nature du FPE. Il me dit, mais en fait, ce parti, d'une certaine façon, on pourrait le qualifier comme un parti social-démocrate de droite. Parce que c'est vrai que c'est pas un parti véritablement anti-système qui veulent mettre fin au système représentatif. Non, là, je crois qu'on a tendance à exagérer un peu, à présenter ça comme, mon Dieu, c'est un retour du fascisme. Finalement, je crois, bon, évidemment, je suis très contente que ce soit Van der Bellen qui ait gagné les élections, mais bon, les choses n'auraient pas été si terribles si ça avait été Hofer. Après tout, ce qui se passe en Hongrie et en Pologne avec Orban et Kaczynski, c'est pas mieux, hein, je veux dire. Là, mais il y a toujours, je crois, pour vous parler aussi des réactions face à l'Autriche, je crois qu'il y a, moi je trouve ça très injuste par rapport à l'Autriche, on dit, oh mais c'est un pays qui n'a pas été dénazifié. C'est ça le problème. Alors qu'en fait, bon, finalement, alors c'est vrai qu'il y a encore des couches plus anciennes, mais c'est un pays où finalement...
Dites que c'est pas l'essentiel. La réussite du FPE, elle réside moins, en tous les cas, disons, dans le passé nazi supposé ou réel du parti que dans cette capacité à construire un véritable pôle d'identification collective entre le peuple et les élites. Oui. Vous parliez d'incertitude. C'est vrai qu'on est dans une grande période d'incertitude. Si on regarde les résultats électoraux et les potentialités qui sont devant nous, on a l'Autriche, on a la Grande-Bretagne, où c'est impossible de savoir si le Brexit l'emportera ou pas. On a la France, où on a l'impression aussi quand même que tous les scénarios sont possibles, ou quasi. On a les États-Unis, où personne ne peut dire une fois encore ce que tout ça donnera. Tous les observateurs nous ont expliqué pendant des mois que Trump allait s'écrouler, qu'il sera écrasé par la mécanique des primaires. C'est pas le cas. Et ce qui domine, c'est vrai que c'est l'incertitude. On sait pas où on va. Dans quelle mesure est-ce que vous reliez justement cette incertitude à l'effacement des clivages, à l'appauvrissement du combat d'idées? Après tout, il y a aussi d'autres raisons qui pourraient expliquer tout ça. Par exemple, la mondialisation, au hasard, qui a augmenté les inégalités, qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens.
Oui, mais justement, les choses sont liées parce qu'en fait, je crois que cet effacement de la différence entre droite et gauche, elle est liée au fait que, j'appelle ça le consensus au centre, le fait que les partis sociaux-démocrates se sont rapprochés beaucoup du centre et surtout qu'ils ont accepté la thèse néolibérale qu'il n'y avait pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Pour moi, c'est ça qui est absolument fondamental. Donc, si vous voulez, cette transformation au niveau politique de la post-politique, c'est lié à l'hégémonie justement du libéralisme et l'idée que, bon, il faut pour un parti social-démocrate, maintenant, ils vous disent, bon, ben, la seule chose qu'on puisse faire lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est si vous voulez, gérer de façon un peu plus humaine cette globalisation néolibérale, un peu plus de redistribution, mais il n'y a pas la possibilité d'offrir une alternative. Alors que justement, la thèse que je défends dans l'illusion du consensus, c'est que la politique, ça a toujours un caractère partisan. C'est toujours, il y a là-bas véritablement ce que j'appelle des antagonismes, donc des points de vue qui ne sont pas réconciliables.
Alors, mais d'une certaine manière, l'alternative, elle existe, elle est là, alors qu'elle vous plaise pas. C'est
quelle est-elle
le souverainisme. Le souverainisme nous dit, en gros, le clivage gauche-droite a explosé, il n'existe plus. Aujourd'hui, on est dans un monde où finalement le paysage politique est séparé entre les mondialistes, ceux qui acceptent la mondialisation, la globalisation, le grand jeu de l'économie libérale, et puis de l'autre côté, les souverainistes. Alors peut-être que ce découpage ne vous convient pas, j'entends très bien, mais l'alternative est là.
Moi, je ne pense pas justement que ça soit une alternative, parce que il n'est pas possible. Évidemment, je ne suis tout à fait critique de l'Europe actuelle, ce que j'appelle l'Europe réellement existante, qui est une Europe définitivement néolibérale. Mais je ne pense pas qu'il y ait une solution en dehors de l'Europe. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est une refondation démocratique de l'Europe, parvenir justement à mettre en place un véritable, de ce que j'appelle une discours agonistique, parce qu'il faut décider, bon, quel genre d'Europe est-ce que nous voulons. Je ne pense pas qu'il soit impossible de transformer l'Europe. L'Europe n'est pas de manière intrinsèque néolibérale. Ce n'était pas un projet qui était pour, contrairement à ce que disent certains, pour essayer d'institutionnaliser le néolibéralisme. Et aujourd'hui, enfin, on ne peut même pas imaginer que la solution consiste pour la France à sortir de l'Union européenne et à devenir complètement dépendante, pour la Grèce, pour l'Espagne. Moi, je ne vois honnêtement pas réalistement de solution.
Je ne dis pas que c'est souhaitable. Je dis simplement que une alternative est là et elle existe. Il y en a une autre que vous souhaitez, vous, c'est en gros ce que vous appelez le populisme de gauche. Vous appelez-vous un populisme de gauche? Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin et comment est-ce qu'on le construit?
Oui, mais justement, je crois que nous sommes aujourd'hui vraiment dans un moment populiste. Et je lis ça au fait de... Il y a une thèse que je développe dans un autre livre qui vient aussi de sortir en même temps, mais publié en édition des Beaux-Arts, qui s'appelle « Le paradoxe démocratique ». Et là, je défends la thèse que, bon, on parle de la démocratie, oui, mais enfin, la démocratie, notre démocratie, le modèle occidental, c'est l'articulation entre deux traditions, la tradition libérale et la tradition démocratique, c'est-à-dire la tradition libérale des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs, de la liberté individuelle, du pluralisme, et la tradition démocratique qui est la tradition finalement de la souveraineté populaire et de la défense de l'égalité. Alors, il y a toujours eu, ce sont deux traditions, c'est la thèse que je défends, qui ne sont pas liées nécessairement, elles ont été articulées historiquement, et qu'il y a une tension entre ces deux traditions, dans la mesure où liberté absolue et égalité absolue ne sont pas réconciliables. Donc il y a toujours une négociation qui doit avoir lieu. En fait, ce qui se passe actuellement avec l'hégémonie du néolibéralisme, c'est que tout l'élément de souveraineté populaire a été complètement expulsé. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, ça veut dire les droits de l'homme, ça veut dire les élections. Et alors je crois qu'on a un retour finalement. J'appelle ça moment populiste parce que on voit qu'il y a une nécessité de rétablir, de redonner une voix au peuple. Alors, cette voix au peuple, évidemment, elle peut être construite ou de manière de droite ou de gauche. C'est ça que j'appelle le moment populiste. Rétablir l'élément démocratique du libéralisme démocratique. Mais le peuple, alors là, je crois que c'est très important d'inciter ça. C'est pas quelque chose qui existe qu'on va essayer de représenter. Le peuple, de la façon où on l'entend de manière politique, c'est toujours une construction.
Alors justement, pardon de vous couper Chantal Mouffe, votre mari, le philosophe argentin Ernesto Laclau, qui est l'ancien directeur de la revue Débat et Combat, qui est décédé en 2014, avait écrit un livre, La raison populiste, dans lequel il expliquait justement que le populisme, c'était pas une idéologie, mais c'est une forme de construction de la politique, c'est ce que vous dites là, une façon d'établir finalement la frontière entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Quelle est la frontière justement entre les gens d'en haut et les jeux d'en bas? Et par quels critères peut-on, doit-on dessiner les contours de ces deux différents groupes?
Non, mais il n'y a pas de. Je crois que justement, il n'y a pas de critères.
Non, mais c'est une question.
Oui, non, mais c'est-à-dire, bon, mais justement, ceux d'en bas, bon. Alors ça, dans le livre que nous avions écrit avec Ernesto Laclau, qui était en fait publié en 1985, mais traduit en français au solitaire intempestif au 2008, nous défendions la thèse que il fallait créer ce que nous appelons une chaîne d'équivalence entre des différentes demandes. Donc en fait, la construction d'un nous. À ce moment-là, on ne faisait pas encore référence au fait que c'était une construction de type populiste. Mais en fait, c'était déjà, d'une certaine façon, la thèse qu'on défendait. La politique, ça a toujours à voir avec la construction d'un « nous ». Et pour construire un « nous », il faut déterminer un « eux ». Bon, ça, c'est absolument fondamental. Alors, pour construire un « nous », dans la mesure où ce n'est pas un « nous » qui représente déjà quelque chose qui existe, il est nécessaire de... fédérer, si vous voulez, la fameuse confluence des luttes, de créer ce que nous appelons une chaîne d'équivalence entre une série de demandes. Alors, évidemment, ça peut, selon les demandes qu'on va vouloir fédérer, ça va créer un peuple différent. Il y a des façons différentes de construire le peuple. Un populisme de droite construit le peuple d'une façon complètement différente d'un populisme de gauche. Alors, ce qui est aussi très important dans cette construction du nous, c'est bien entendu les éléments qui vont entrer dans ce nous, mais aussi quel est le « eux » auquel ce « nous » va être opposé. Alors là, c'est aussi absolument fondamental, par exemple, dans la construction d'un populisme de droite ou de gauche. Un populisme de droite va évidemment construire le « eux » en général comme étant les étrangers, les immigrés. Tandis qu'un populisme de gauche doit introduire, reconnaître ces immigrés, ces étrangers à l'intérieur du nous. Et bien entendu, là, pour un populisme de gauche, le « eux », ça va être bon les grandes entreprises transnationales, les éléments fondamentaux du néolibéralisme. Je crois que ça, c'est très important de reconnaître. Mais
ce ne sont pas des individus.
Non, certainement pas.
C'est un vrai problème.
Pourquoi ?
Parce que pour construire un « nous », il faut construire un « eux oui. ». Et en l'occurrence, le « eux », ce ne sont pas des individus, ce sont des entités.
Oui, ou des groupes. Oui, bien entendu. Mais c'est pas... Oui,
fait une différence avec la construction du populisme de droite. Où là, pour le coup, effectivement, c'est l'étranger, c'est,
oui,
etc.
Oui, mais c'est pas l'étranger en tant que personne, c'est toujours l'étranger en tant que groupe. Non, mais là, c'est que je voudrais bien insister sur ça. Pour moi, dans le champ politique, on a toujours affaire avec des identités collectives. D'accord. Ce n'est pas des personnes, des individus, c'est toujours des entités collectives.
Est-ce que ces mouvements indignés, Occupy, Nuit Debout, sont de nature, selon vous, à faire émerger justement ce populisme de gauche?
Non, mais écoutez, alors là, vous disiez que j'étais l'inspiratrice des indignés. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait, les de Podemos, oui, mais pas des indignés. Et il faut justement indiquer la grande différence entre Podemos et les indignés. Bon, Podemos, par exemple, lorsque le mouvement a commencé sur la Plaza del Sol à Madrid, bon, ils se réunissaient et leur slogan, c'était « Démocratia realia », nous voulons une démocratie réelle maintenant. Mais leur démocratie réelle, c'était une démocratie qui consistait à créer les conditions pour avoir un consensus total. Donc, c'était absolument pas dans la ligne de ma ligne agonistique. Et c'est justement ça, à mon avis, qui était le problème des indignés. Et le fait aussi qu'ils ne voulaient avoir aucun rapport avec les partis, tout ce qui était institutionnel. C'était qu'ils parlaient même, ils disaient, c'est même pas une démocratie directe que nous voulons. La démocratie directe est encore trop représentative. C'est une démocratie que certains ont appelée présentiste. Alors, évidemment, lorsqu'il y a eu les élections, un peu après en Espagne, c'est le parti populaire, donc le parti de droite, qui a gagné avec majorité absolue. Parce que le slogan d'indigné, c'était « il ne faut pas voter ». Alors, à ce moment-là, justement, c'est ça qui est intéressant. Un groupe de professeurs d'université Complutense à Madrid... C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser toute cette effervescence se perdre. Il faut absolument trouver le moyen de canaliser ça, de trouver des formes d'institutionnaliser. Et ça, c'est là où ils ont créé Podemos. Alors là, c'est absolument la ligne que je défends. Que, si vous voulez, il n'est pas, on ne peut pas penser à une transformation de la société si on ne fait pas l'articulation entre le moment horizontal, qui est très important. Par exemple, les gens de Podemos reconnaissent, ils disent, nous, on n'aurait pas été possible, évidemment, sans les indignés. Mais on n'est pas le parti des indignés.
On va en venir justement précisément au cas espagnol, voir la question politique de cette affaire-là, et puis la question aussi sociale, parce que avant d'avoir de la politique, il n'y avait peut-être que du social et ce rejet justement de la politique. On va retrouver un nouvel intervenant, c'est Jérôme Ferret, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse, vous êtes membre du CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique de l'EHESS. Vous avez, vous, une approche, disons, globale de ce mouvement des indignés. Vous avez eu l'occasion d'observer in situ. Par ailleurs, vous êtes intéressé à d'autres mouvements d'occupation. Dès le départ, l'essentiel pour ce mouvement, il se situe sur ces questions sociales. Il est question de conditions de vie, les questions de problèmes de logement. En fait, la politique, elle est venue qu'après. Au départ, c'est un mouvement social qui se veut apolitique. C'est le point commun entre tous ces différents mouvements. On rejette la politique et on se rassemble autour de la convergence des luttes. Jérôme Ferret.
C'est ça. Écoutez, moi, je suis assez d'accord avec vous et je rejoins en partie Chantal Mouffe sur le diagnostic entre la distinction à établir entre Podemos et les indignés dans la diversité des courants qu'ont pu représenter les indignés. C'est une politique ou antipolitique par le bas qui s'articule autour de questions essentiellement sociales, de logement, d'accès à l'université. J'en fais une question absolument structurante, c'est-à-dire le décalage notamment de certains enseignants d'université qui n'ont pas accès au poste et au pouvoir, et sur les questions de conditions de vie en général, et en particulier de santé publique. Santé publique, logement et accès à l'enseignement. C'est ces mouvements, ces micro-mouvements qui se sont agrégés sur place, partent d'ailleurs dans un temps assez long qui a précédé, hein, parce que parler de mouvement social, ça a une charge très lourde, hein, quand on fait appel notamment à la sociologie d'Alain Touraine. Un mouvement social, c'est le mouvement ouvrier. Et je pense qu'il y a peut-être un danger à vouloir retrouver des catégories anciennes et les coller à des réalités tout à fait nouvelles à partir d'un vocabulaire qui n'aurait pas évolué. Ça, c'est le grand danger quand on veut analyser cette politique-là, c'est d'appliquer des cadres d'analyse qui sont des cadres d'analyse de la société industrielle.
Et puis peu à peu, Jérôme Ferret, c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc ce mouvement s'est transformé. Il y a eu, disons, plusieurs voies. La première avec l'institutionnalisation et donc Podemos, et puis aussi un bloc qui va continuer à exprimer son mécontentement, qui va continuer à s'exprimer sur ces questions existentielles, le logement, les dettes, les privatisations, etc. Et puis peut-être une autre voie qui est la voie digitale. Alors évidemment, il y a des ponts entre ces différents groupes, hein, c'est ce que vous expliquez, mais il y a quand même eu là la constitution de blocs, d'une certaine manière.
C'est vrai. Avec une source intellectuelle très importante qu'on évoque assez peu, et j'y vois une forme de parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la question du pouvoir sur Internet, puisqu'il ne faut pas oublier que, un, la question sociale était au cœur de cette mobilisation complètement spontanée et quasiment incertaine, hein, puisqu'après l'agrégation de ces groupes a obéi à des formes d'incertitude, hein, c'était un tout petit peu imprévu, en fait, en tout cas c'est ce que me racontent les organisateurs, mais avant il y avait quand même une loi qui était censée réguler le monde Internet et informatique, et ça, c'est ce pouvoir-là, cette question du pouvoir numérique est très importante, avec l'influence notamment d'un sociologue catalan qui s'appelle Manuel Castells, qui a beaucoup travaillé sur la société de l'information, et toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui en termes de contrôle de l'information par les nouveaux médias digitaux était assez présente au cœur des débats. En tout cas, moi, ce que j'ai observé à Barcelone, avec une intervention de Manuel Castells sur place, ça, c'est une des sources intellectuelles qui a influencé et qui continue à influencer, hein, ces mouvements un petit peu clandestins et souterrains.
On va voir quelles sont les autres sources intellectuelles. Vous restez avec nous, Jérôme Ferret. Chantal Mouffe, vous disiez la différence entre Podemos et les indignés, c'est ce refus du côté de Podemos, du consensus, justement. Alors, je rappelle pour les auditeurs, fin d'année dernière, les Espagnols étaient invités à se rendre aux urnes pour les élections législatives. On a les deux grandes forces politiques historiques traditionnelles qui sont arrivées en tête, les conservateurs du PP et les socialistes du PSOE. On a eu derrière donc cette percée de Podemos, plus de 5 millions de voix, 69 sièges et des libéraux de Ciudadanos. Donc on s'est retrouvé dans une situation de quadripartisme. Pendant des semaines, on a essayé de dégager une coalition pour former un gouvernement. Et Podemos, lui aussi, a essayé. Écoutez ce que disait Pablo Iglesias. Il était au Parlement espagnol. C'était le 15 mars dernier. Et il s'adresse au chef des socialistes, Pedro Sánchez. Écoutez ce qu'il dit.
Osez, Monsieur Sanchez, être le président d'un gouvernement de coalition qui propose réellement un programme progressiste sans prétendre résoudre le problème de la quadrature du cercle en disant qu'avec une approche idéologique différente, on peut se mettre d'accord sur la politique économique en se disant que l'on peut regarder à gauche pour la politique sociale et à droite pour la politique économique. Ce n'est pas possible en politique, Monsieur Sanchez. Passez un accord avec nous, avec Compromis, avec Izquierda Unida, dialoguez avec le Parti nationaliste basque. Il y a des forces politiques catalanes ici qui ne sont pas des monstres, qui sont des représentants de la souveraineté populaire et qui, bien que nous ne soyons pas toujours en accord, ne veulent pas que le Parti populaire continue à gouverner. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est plein de difficultés, mais notre main à partir de ce soir reste tendue. Mais au même titre que nous acceptons les conditions qui supposent que vous fassiez part de ce gouvernement et que vous en soyez le président, acceptez de votre côté qu'un gouvernement de coalition à la valencienne doive assumer l'idée que les responsabilités et les décisions se prennent ensemble.
Voilà donc Pablo Iglesias, 15 mars dernier au Parlement espagnol, qui demande au chef des socialistes Pedro Sanchez de bien vouloir créer un gouvernement avec Podemos malgré leurs désaccords. Il appelle donc un gouvernement de coalition à la valencienne, alors qui était une coalition à l'époque régionale qui avait rassemblé des partis très différents, de gauche, des nationalistes, des verts, des républicains. Est-ce qu'on n'est pas là, Chantal Mouffe, précisément dans l'illusion du consensus ?
Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, de toute façon, c'était créer un gouvernement enfin, de gauche pour éjecter le Parti populaire du gouvernement. Non, ce qui était on va voir ce qui se passe en Espagne, mais par exemple l'union du consensus, ça pourrait être ça peut encore se passer une alliance entre le Parti populaire et le PSOE. Qui est encore, tout est ouvert en ce qui concerne les élections.
Mais si Podemos fait une grande alliance avec les socialistes, la gauche de Izquierda Unida, etc., il ne s'agit pas là d'une...
Non, il ne s'agit pas d'un consensus. C'est un nous qui se crée, mais il y a un nœud. C'est pour mettre fin à l'hégémonie au pouvoir du Parti populaire. Donc, là où il y aurait eu véritablement une illusion du consensus, c'est si Pablo Iglesias avait accepté, par exemple, de faire alliance avec le PSOE et Ciudadanos, parce que c'est ça que voulait Pedro Sanchez. Il a dit, moi je vais ouvrir sur ma droite et sur ma gauche. On va tous... Non, alors là, ça aurait été un consensus. Mais Pablo Iglesias a dit vraiment très clairement, nous, avec Ciudadanos, on ne va pas... parce qu'on n'est pas d'accord, on a un antagonisme fondamental avec le PP, le Parti Populaire, et avec Ciudadanos. Mais je voudrais revenir, si vous me permettez, sur quelque chose que vous avez dit et qui est important, je crois, pour comprendre la différence entre les indignés et Podemos. Vous parliez de différence entre le social et le politique. Moi, je ne fais pas cette différence. Je crois que le politique, c'est toujours... Le social est toujours articulé de manière politique. Alors, par exemple, ce qui est en jeu dans ces luttes, c'est évident, je suis tout à fait d'accord que le mouvement des indignés se référait à des demandes au point de vue social très, très concrètes, les expulsions, la santé. Tout. Mais ils pensaient, je crois que c'est là où il y avait une certaine erreur, qu'ils allaient pouvoir transformer ces conditions-là sans entrer dans les institutions. Alors je crois que on l'a bien vu que ça c'était pas possible. C'était une stratégie qu'on ne connaît pas. Et Podemos justement a repris. Podemos est tout à fait d'accord avec toutes les demandes sociales des indignés. Ce qu'il dit c'est que bon, pour pouvoir transformer ça, ben, il faut qu'on arrive au gouvernement. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Donc, il y a beaucoup de critiques de Podemos. Ils ont abandonné leur demande. Maintenant, ils veulent simplement gouverner. Mais ils veulent gouverner, mais pour pouvoir profondément transformer les conditions sociales qui existent en Espagne. Donc, pour agir sur le social. Et je crois que, franchement, là, ils ont tout à fait raison de penser que on peut pas. Je reviens encore sur ce point sur lequel j'insiste vraiment. Il faut qu'il y ait une articulation entre les demandes du mouvement social et une représentation politique. Sinon, on ne doit pas parvenir à transformer la société.
J'entends bien, mais poussons encore un tout petit peu les choses et puis ensuite je redonnerai la parole à Jérôme Ferret. On sait que l'une des évolutions apportées par Podemos, c'est d'avoir cherché précisément à faire sauter le clivage gauche-droite pour introduire peut-être une nouvelle lecture à travers ce prisme haut-bas, à travers cette séparation caste-peuple. D'ailleurs, Syriza en fait refuse qu'on le qualifie de parti de gauche radicale. Par ailleurs, récemment, Pablo Iglesias, on parlait de coalition, a rencontré le leader de Izquierda Unida, la gauche unie, alors là pour le coup clairement la gauche de la gauche, qui avait remporté 900 000 suffrages aux précédentes élections, donc ils ont même construit une alliance pour être éventuellement en capacité de conduire une coalition à l'issue des prochaines législatives. Il y a quand même deux commentaires. D'abord, on a l'impression d'être dans une démarche de stratégie, de calcul politicien, comme le ferait n'importe quel autre parti, mais après tout, pourquoi pas. Mais comment réfuter le caractère de gauche radicale quand on s'allie à un parti qui lui clairement s'en revendique depuis plus de 30 ans.
Oui, mais cette union qu'on appelle Unidos Podemos, hein, entre Izquierda Unida et Podemos, ne se présente pas comme toute la presse et tout essaie de le prendre, c'est un front de gauche. Il dit non, nous ne sommes pas un front de gauche. On n'est pas la stratégie de Podemos a toujours été de créer un nous transversal. Par exemple, il disait, je crois qu'ils avaient tout à fait raison, que vu la situation en Espagne, il y avait toute une série de gens qui avaient traditionnellement voté pour le Parti populaire, qui pouvaient être gagnés à un projet de transformation comme celui de Podemos. Donc, ils veulent créer un sujet populiste, c'est ça, qui soit...
Podemos n'est pas structuré sur une idéologie de gauche.
Podemos est construit... Finalement, ce qui est en jeu dans la politique, c'est la construction de la frontière entre nous et eux. Et comme vous avez fait référence aux travaux d'Ernesto Laclau, alors Ernesto Laclau dit, bon, il y a cette frontière peut-être construite, ou bien en termes de droite et de gauche, mais à la manière traditionnelle, la gauche représentant les intérêts de la classe ouvrière et la droite, bon, ou bien alors en termes populistes, dans la mesure d'environ ceux d'en bas et ceux d'en haut. Mais alors ceux d'en bas, évidemment, c'est beaucoup plus que la classe ouvrière, c'est aussi toute une série de personnes qui, bon, des classes moyennes, parce que dans la mesure justement où on accepte que c'est une construction politique, ce n'est pas la représentation d'intérêts qui sont déjà donnés. Et c'est ça, c'est sur ce point-là que Podemos reconnaît l'influence de nos travaux sur leur stratégie. Il s'agit de faire un nous qui est très transversal, qui permet justement de gagner à ce projet. Bien entendu, les gens de gauche, mais aussi des gens qui ne se considèrent pas traditionnellement comme la gauche. Alors, par exemple, il était évident que d'un tel projet transversal, il n'était pas question d'exclure ceux qui votent pour Izquierda Unida, parce que ça, ce sont des gens qui, bien entendu, participent à ce projet. Mais ce qu'ils insistent, c'est qu'ils ne veulent pas présenter le projet comme étant de gauche, parce que
Mais ça, c'est dans les discours, Chantal Mouffe. Est-ce que vous, si je vous demande finalement quelle est l'influence de l'idéologie de gauche, de la pensée marxiste dans l'imaginaire intellectuel de ses principaux cadres, elle est quand même très présente. Non.
Oui, elle est présente, mais pas chez tous. En fait, je veux dire là, il y a par exemple, il y a quelque chose qui a été très important dans la formation des gens de Podemos, c'est l'expérience latino-américaine. Parce que la plupart d'entre eux ont travaillé en Amérique latine, et ils ont été très très influencés par le projet national populaire qu'on retrouve dans le gouvernement progressiste. Et justement le fait que ils se présentent, par exemple, il y a aucun des gouvernements progressistes en Amérique latine qui s'est jamais présenté comme un gouvernement de gauche. D'ailleurs, par exemple, pour parler de l'Argentine, la gauche en Argentine a toujours été très critique du projet national populaire de Néstor et de Cristina Kirchner, parce que eux représentent justement une gauche plus traditionnelle. Bon, la gauche, c'est l'intérêt de la classe ouvrière. Tandis que justement, si on pense un projet national populaire, et c'est dans ce terme-là que pense Podemos, il faut pouvoir gagner. Il s'agit pas simplement de représenter ceux qui se considèrent déjà comme étant de gauche. Il faut aussi gagner d'autres une série de gens qui peuvent accepter, s'identifier avec un projet. Nous, on appelait ça dans Hégémonie sociale les stratégies de radicalisation de la démocratie. Donc, c'est très différent du projet de la gauche traditionnelle.
Jérôme Ferret, on entend Chantal Mouffe qui essaye quand même de nuancer peut-être ce poids justement de l'idéologie de gauche, l'idéologie marxiste dans l'action politique de Podemos. On sait combien, bien sûr, Jérôme Ferret, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été importantes dans la manière d'organiser les événements, les débats. On sent qu'il y a évidemment ce désir de produire de nouveaux mécanismes décisionnels dans lesquels les citoyens seraient évidemment plus sollicités. Et avec tout ça, bien sûr, au milieu de tout ça, on a les outils numériques. Et si la véritable révolution, pour les indignés, pour Podemos, elle n'était pas idéologique, mais organisationnelle. Au fond, la véritable nouveauté, elle se trouve peut-être davantage dans les outils de cette nouvelle démocratie à naître que les idées qu'elle permet de défendre.
Alors, je crois que, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il faudrait peut-être relancer un autre débat parce qu'il y a énormément de choses qui sont évoquées. Je crois qu'il faut se méfier d'un certain nombre de d'illusions, pour prendre le terme de Chantal Mouffe, c'est-à-dire d'illusions de la connaissance. Sur la capacité organisationnelle des réseaux numériques, je pense que c'est un leurre, en fait. Quand on regarde la structure même de ce mouvement, et en tout cas des deux lieux les plus importants que sont Barcelone et Madrid, qui se sont répandus, d'ailleurs je reviendrai sur cette question rapidement, parce que Podemos se heurte à un problème assez structurel et de réel politique. Mais pour revenir à la capacité organisationnelle, c'est un peu une illusion. Ils ont eu besoin d'organisation. Et quand on analyse la structure interne, ce sont des gens qui viennent du militantisme traditionnel et qui ont usé de recettes organisationnelles tout à fait traditionnelles, de partis politiques, d'organisations, de contrôle. La construction de Podemos a fait des dégâts, a fait des victimes et a été une forme de prise de pouvoir interne. Donc cette oligarchie n'est pas une question si claire que ça d'un côté comme de l'autre, même si l'oligarchie dans le système espagnol est un des grands problèmes, pouvoir financier, pouvoir religieux, que connaît l'histoire de ce pays. Donc attention à cette illusion de cette utopie numérique qui organiserait par la force une espèce de conscience numérique. Ça, c'est dans la réalité pragmatique d'observation, c'est assez faux. Le deuxième point auquel se heurte Podemos, et d'ailleurs c'est pour revenir au discours que vous nous avez fait entendre en direct, c'est la question nationaliste, c'est-à-dire la formidable ambivalence de cette nouvelle production de la politique qui se heurte quand même à la question de l'indépendance, puisque là où le bât blesse, c'est l'incapacité de Podemos à trouver un accord avec les nationalistes catalans et les nationalistes basques, puisque ok, d'un côté on a une production de nouveaux codes politiques, une rénovation de la pensée politique, mais de l'autre il y a des vieux problèmes. Et ce processus démocratique de radicalisation de la démocratie se heurte à un processus tout à fait classique qui est un processus de revendication autonome. Et troisième point, oui, sur la question sociale et la question politique, n'oublions pas que l'une des grandes animatrices du mouvement des indignés en Catalogne, Ada Colau, qui est quelqu'un qui a défendu les expulsions et qui s'est fortement engagé sur les expulsions des gens qui étaient effectivement avaient perdu leur logement après la crise financière de 2008-2009, très 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 violente en Espagne, elle est devenue maire de Barcelone. Donc ce combat social a été institutionnalisé en dehors de Podemos.
Merci beaucoup Jérôme Ferret d'avoir été avec nous ce matin. Je voudrais qu'on parle désormais de la Grèce, qu'on garde quelques minutes pour en parler, parce que depuis le début de la crise financière en 2008, la Grèce a été jetée, on le sait, dans le piège d'une dette colossale qui l'empêche de prendre des décisions politiques et qui a fait basculer des millions de Grecs dans la pauvreté. Et c'est sur cet élan, on s'en souvient, du refus de l'austérité qu'en janvier 2015, le parti de la gauche radicale est arrivé au pouvoir avec son premier ministre Alexis Tsipras. Mais aujourd'hui, les discours anti-austérité semble un peu loin, et pour cause, quand on est Premier ministre, on doit décider, on doit faire passer des textes, parfois difficiles, comme ça a été le cas d'ailleurs pour celui qui est passé la semaine dernière et par lequel le pays s'engage à nouveau à des réformes. Écoutez.
Aujourd'hui, je pense qu'un cercle touche à sa fin, un cercle qui a été difficile pour le pays. Aujourd'hui, nous prenons le dernier pas pour finir la première évaluation, ce qui signifie une nouvelle ère créative pour la Grèce, une ère qui aura aussi ses propres difficultés, mais aura aussi une perspective. Cette nuit, les dirigeants européens reçoivent le message que la Grèce respecte ses engagements et assume ses responsabilités. À partir de demain, il reste à l'autre partie d'assumer aussi ses responsabilités, de remplir ses obligations conformément à notre accord commun.
Voilà, et les dirigeants européens semblent avoir bien reçu le message, puisqu'en début de semaine, le commissaire européen chargé des affaires économiques, Pierre Moscovici, a assuré que la Grèce avait franchi une étape importante en adoptant ces nouvelles mesures de rigueur, qui allaient sûrement permettre un nouvel accord pour le déblocage d'un nouveau prêt à Athènes. Et d'ailleurs, les ministres européens des Finances se sont dit prêts aujourd'hui à alléger cette dette. On va trouver une nouvelle invitée, Lamprini Rory, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Quand on se souvient de Syriza qui arrive en tête des élections en janvier 2015 sur la promesse de mettre fin à l'austérité. On se demande là si les électeurs ne sentent pas une forme de trahison, même si on se rend bien compte, hein, bien sûr, que Tsipras n'a pas vraiment le choix. Et d'ailleurs, les élus de Syriza le sentent bien, à l'instar de la députée Vassiliki Katrivanou, qui a voté contre certaines mesures, mais qui a globalement voté le texte avant de présenter sa démission. Elle disait sur son compte Facebook, nous, Syriza, mettons en œuvre des mesures et des politiques qui vont contre le cœur de nos valeurs et de notre politique, mais je ne vois aucune alternative fiable, c'est pourquoi je démissionne. C'est vrai que ce vote, il apparaît comme un renoncement idéologique, Lamprini Rory.
Oui, en fait, on a vu que les nouvelles mesures de rigueur ont été votées au Parlement par une majorité de 153 députés appartenant cette fois-ci qu'au parti de la coalition gouvernementale, donc à Syriza et aux Grecs indépendants. Donc, contrairement au vote de juillet et d'août 2015, quand l'accord entre les créanciers et la Grèce ont été votés, disons, les troisièmes référendums a été aussi voté par l'opposition pro-européenne, cette fois-ci, il y a que la coalition gouvernementale qui a voté les mesures. Moi, je suis très, très étonnée par le fait qu'il y a qu'un député qui a soulevé une voix de position interne à Syriza. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois depuis qu'on est dans la crise financière et que les mesures d'austérité passent par le Parlement avec un vote tellement solide. Donc, chaque fois que passons que Nouvelle Démocratie ont dû voter les mesures d'austérité, il y a eu une vraiment hémorragie au niveau des représentants au Parlement et des défections. C'est la première fois qu'on voit un vote tellement solide. C'est très paradoxal vu que ça vient de Syriza et des Grecs indépendants.
Chantal Mouffe, vous y voyez aussi un renoncement idéologique ?
Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que Tsipras est un traître, parce que finalement, il n'avait pas d'alternative, le pauvre Tsipras. Il a été mis au pied du mur par la réaction absolument brutale de l'Union européenne. Bon, remarquez, on s'attendait tous, de toute façon, à une réaction de l'Union européenne, parce que ça aurait été impensable que les forces néolibérales qui domine en Europe, s'ils avaient permis le succès d'un gouvernement de Syriza qui disait non, il y a une alternative à l'austérité, bon, ben, c'était pour eux montrer qu'il y avait une faille dans leur argument. D'ailleurs, il faut aussi noter que l'Espagne a été, Rajoy, le Premier ministre, était un des plus féroces pour s'opposer à ce qu'on ait Syriza, parce qu'évidemment, il voyait que ça allait donner de la force à Podemos. Donc finalement, Tsipras n'avait pas d'alternative. Alors, je crois que les Grecs, finalement,
il y a toujours la possibilité
compris
de sortir de la zone euro.
Mais non, mais justement, là où je ne suis pas d'accord avec la position qui a été défendue par donc, ceux de Syriza qui sont sortis, qui ont fait l'Union populaire, ce n'était pas possible. Ça aurait créé une crise beaucoup plus grave encore en Grèce. D'ailleurs, les Grecs ne voulaient pas sortir de l'euro. Je crois qu'ils étaient très clairs qu'ils n'avaient pas voté Syriza pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. Hein. Donc là, finalement, Tsipras a suivi le désir des Grecs de rester dans l'euro. Il leur a dit la vérité. Je crois qu'il était vraiment honnête. Il a dit, mais voilà, on n'a pas le choix. Et je crois qu'aujourd'hui encore, d'après ce que j'apprends de mes amis en Grèce, la situation va mal, elle est très dure, mais en fait, il y a encore un appui assez fort pour Tsipras. Ce que cette expérience grecque nous montre, et pour moi c'est tout de même assez important, c'est qu'en fait, ce populisme de gauche, parce que pour moi, c'est le Tsipras et Syriza, c'est vraiment aussi le populisme de gauche. C'est intéressant de voir la différence ici avec Podemos, parce qu'en fait, dans le cas de la Grèce, il y a eu aussi le mouvement des places à Syntagma, mais là, il y a eu justement l'introduction, enfin, les indignés ont rejoint un parti qui existait déjà, qui était donc le parti de Syriza, qui était un parti qui avait été créé originellement par, ça vient en fait de l'eurocommunisme de gauche, le Syriza, c'était Tsipras-Pismos. Donc là, ils ont rejoint un parti qui existait déjà, tandis qu'en en Espagne, bon, il y a eu besoin de création d'un parti complètement nouveau qui était Podemos. Mais dans les deux cas, je crois qu'il s'agit justement d'un populisme de gauche, c'est-à-dire c'est un mouvement qui se différencie de la social-démocratie, mais aussi de l'extrême gauche, hein, parce qu'il y a encore en Grèce une extrême gauche. C'est
si
un mouvement
si
de ce que j'appelle, moi j'appelle ça du réformisme radical.
Même si peut-être quand même, Lamprini Rory, et c'est d'ailleurs ce que vous dites, il y a eu une évolution dans le discours de Syriza. Vous dites qu'au fur et à mesure, Syriza a pris ses distances par rapport au prisme de la lutte des classes et que, au fur et à mesure, la lutte des classes a laissé place au discours populiste, nationaliste sur le thème du peuple résistant à l'oppresseur étranger. Donc là aussi,
oui, mais ça, c'est...
Il y a une évolution.
Mais non, mais attention, il n'y a pas une évolution. Syriza est arrivé au pouvoir sur ce discours-là.
Absolument, absolument.
Oui, justement, c'était un discours qui était... Ils sont arrivés au pouvoir en tant que populistes de gauche. Pour revenir à ce que je disais...
En quelques secondes, parce que vous entendez la musique déjà qui est en train de nous expulser progressivement de l'antenne.
L'Union européenne, donc ça montre en fait que le populisme de gauche doit être de caractère européen. Il n'est pas possible de transformer les choses dans un seul pays. Il faut qu'il y ait un grand mouvement populiste de gauche au niveau européen. C'est ce que l'expérience de la Grèce nous montre.
Merci beaucoup Chantal Mouffe d'être passée dans le studio. Je rappellerai votre ouvrage L'illusion du consensus chez Albin Michel. Me retrouvera toutes les références de vos ouvrages sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci également à Lamprini Rory qui était avec nous par téléphone. Il faudra qu'on réorganise des discussions autour de ce thème parce que c'est très riche, très très riche. Merci beaucoup
en
tout cas.
Merci à vous.